Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débrief.
Et on a des choses à débriefer ce matin avec nos invités, Laurent Giacobelli du Rassemblement National, Wilfried Galland, directeur stratégique chez Montpensier Finance, et Benouda Abdedaïm. Évidemment, on va commencer par la situation italienne parce que, comme prévu, effectivement, la coalition de droite avec la leader d'extrême droite a gagné les élections. Plus de 43% des suffrages, majorité absolue et à l'Assemblée et au Sénat. Ils vont donc gouverner. Mais ils avaient mis beaucoup d'eau dans leur vin, Benouda, au cours des derniers jours, dernières semaines. On parlait même d'un ministre des Finances dans la continuité du précédent. Est-ce que du coup, il y a une sorte de banalisation de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite ?
Il y a, de ce point de vue, en tout cas, une volonté d'institutionnalisation, c'est le terme qui est employé beaucoup en Italie, de ce bloc de droite, avec l'idée qu'il y a aussi une volonté de la part du président Sergio Mattarella de poser des bornes. C'est ce qu'on lit par exemple dans une dépêche de l'agence ANSA, l'agence italienne de presse, deux bornes essentielles qui est le respect des principes de la construction européenne et les respects du principe de l'Alliance Atlantique. Ce sont les deux bornes essentielles sur lesquelles il va veiller, et surtout Sergio Mattarella, on ne va pas manquer dans les heures qui viennent, de définir en quelque sorte le gouvernement que lui entend voir au-delà de la volonté populaire qui s'est exprimée dans les urnes, c'est-à-dire le ministre du Trésor, le ministre de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Et de ce point de vue-là, Giorgia Meloni, la chef du parti des Frères d'Italie, a déjà donné des indications qui montrent qu'elle est prête à aller dans ce sens, de proposer des profils dits techniques, comme on dit en Italie, des profils de haut niveau, provenant de la très haute administration italienne, ou qui ont déjà été aux affaires, soit comme ambassadeur, soit comme directeur général du Trésor, soit comme membre du directoire de la BCE, des profils classiques qui, d'une certaine façon, atténueraient l'effet qui est d'une majorité sans précédent, aussi bien, comme vous l'avez dit, à la Chambre des députés qu'au Sénat, en faveur de ce bloc de droit, de ce bloc de centre-droit, comme on dit en Italie.
Laurent Giacobelli, ce matin, Jordan Bordella a dit que cette élection en Italie, c'est une leçon d'humilité pour l'Europe. Et pourtant, on entend la nouvelle patronne italienne dire non, moi je suis avec l'Europe. Elle essaye de rassurer. Alors pourquoi il y a cette dichotomie ?
Il n'y a pas une dichotomie. Vous savez, le projet européen, il existe. Que les nations européennes travaillent ensemble pour améliorer le sort de leurs compatriotes, c'est une bonne chose. En revanche, l'Europe qui impose, l'Europe qui veut se substituer au peuple, comme Madame Ursula von der Leyen qui a dit au peuple italien, si vous votez mal, vous aurez des sanctions, eh bien ça c'est intolérable. C'est finalement un cri de liberté qui est venu d'Italie, un cri de démocratie. Le peuple se réveille, il veut prendre son destin en main et ne veut pas qu'on lui impose depuis Bruxelles sa politique migratoire, sa politique économique ou sa politique internationale. Finalement, une Europe des libertés...
Elle n'a pas dit si vous votez mal, hein. Elle a dit si vous ne respectez pas un certain nombre de droits humains, comme ça peut être le cas d'ailleurs dans certains pays, dans ces cas-là, vous n'aurez pas les subventions dont vous...
Elle a clairement dit, si vous votez pour l'alliance de centre-droit, il y a des risques de rétorsion derrière, et ça, ce n'est pas acceptable dans un monde démocratique.
Alors c'est intéressant parce que vous dites, Laurent Giacobelli, vous-même, l'alliance de centre-droit, ça veut dire que l'extrême droite au pouvoir, c'est une extrême droite Canada Dry, en fait.
Mais parce que ce n'est pas l'extrême droite. On peut vouloir faire peur aux électeurs. L'extrême droite, ça a un sens historique. En Italie, cette alliance, elle s'appelle, c'est la presse italienne qui l'appelle comme ça, pas moi, l'alliance de centre-droite.
Enfin, elle se revendique, elle le dit, de l'histoire depuis Mussolini. Elle a dit en déclaration publique, elle a dit à 19 ans, elle a dit ensuite que voilà.
Je pense qu'il ne faut pas chercher à faire peur. Les trois mouvements qui font partie de cette alliance ont tous les trois participé à des gouvernements. Madame Meloni a elle-même était ministre,
M. Salvini, la jeunesse, oui.
Qui est notre allié du Rassemblement National, a été ministre. Il n'y a jamais eu le moindre couac démocratique. Je pense qu'il ne faut pas faire peur au peuple. Il ne faut pas essayer de guider leur vote. Il faut les écouter, tout simplement. Vous savez, en Suède, en France, avec les élections législatives, et aujourd'hui en Italie, eh bien, il y a des peuples qui se réveillent et qui disent « Rendez-nous notre liberté, rendez-nous notre démocratie. C'est à nous de décider ce que notre pays doit devenir, dans un cadre européen, bien sûr, mais dans un cadre libre. »
Wilfried Galland, est-ce que les marchés, eux, ils ont peur ?
Alors, les marchés sont forcément un tout petit peu inquiets parce que c'est la première dette en termes de poids derrière la Grèce par rapport au PIB.
150%.
Et parce que le sujet italien, ça a toujours été le sujet sur lequel tout le monde s'est focalisé sur les marchés financiers pour dire... Est-ce qu'il y a cette fameuse prime de désintégration de la zone euro, oui ou non ? C'est-à-dire, est-ce que on pense que il n'y a pas une seule zone euro, mais finalement il y a plein de pays avec plein de dynamiques particulières et qu'à un moment donné tout ceci va exploser. Et donc là, on voit qu'effectivement ce matin on a une légère tension sur la dette italienne par rapport à la dette allemande. Ça reste quand même très mesuré, et je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le programme économique italien, quand on le regarde d'une façon un peu dépassionnée, c'est pas un programme qui, normalement, doit remettre en cause les grands équilibres. En revanche, le vrai sujet, effectivement, et on le voit sur ce plateau, c'est le sujet européen, c'est comment est-ce que ça va s'articuler les institutions européennes avec la nouvelle coalition italienne.
Laurent Giacobelli, donc, pour le Rassemblement National comme pour les frères d'Italie, l'euro, aujourd'hui, n'est plus un problème, ne vous empêcherait pas de mener la politique économique que vous souhaiteriez ?
Non, puisqu'il y a eu une petite révolution il y a quelques années avec un assouplissement des règles, j'allais dire, au niveau de la Banque Centrale Européenne. Vous savez, l'économie ne doit pas être un dogme. L'économie, elle doit être souple, on doit s'adapter. Nous ne faisons pas de l'économie une idéologie, c'est un outil, l'économie, au service d'un programme. Et c'est ça qu'il faut voir. Aujourd'hui, être dans l'euro... n'est plus incompatible avec le fait de mener certaines politiques, une politique fraternelle et sociale en ce qui concerne les retraites et le chômage, à l'inverse d'ailleurs de ce que prépare le gouvernement, une politique de stratégie, un État stratège qui permet d'investir dans des filières d'avenir et ne pas abandonner à la mondialisation les fleurons de notre économie. Tout ça est aujourd'hui possible, c'est une volonté politique qu'il faut avant un outil économique.
Benaouda.
Le prochain gouvernement de Giorgia Meloni sera face à son programme. Et de ce point de vue-là, concernant la question européenne, il y a la renégociation, la reconfiguration du plan de relance et de résilience européen. Il y a des objectifs quantitatifs très précis qui sont prévus et que Mme Meloni veut renégocier, ce qui pourrait repousser le versement de la troisième tranche dans le temps, qui s'élève à près de 19 milliards d'euros. Voilà un point exact, précis, sur lequel il va y avoir négociation avec la Commission européenne. On a vu déjà des députés sociaux-démocrates allemands au Bundestag expliquer qu'ils sont tout à fait favorables à une poursuite de la coopération avec l'Italie.
Parce que personne n'intéresse que la zone euro implose. Hein.
C'est de ce point de vue-là. Et ensuite, il y a un point fondamental aussi, c'est ce qui relève de la politique étrangère, ce qui ne relève pas des histoires relevant de l'euro, c'est-à-dire est-ce que l'Italie dressera un blocus naval face à la Libye, donc entraînera une action militaire face à la Libye, sachant qu'encore une fois, nous l'avons dit précédemment, le reproche fait fondamental et fait par Giorgia Meloni dans ses divers propos n'est moins à l'encontre de l'Allemagne ou de Bruxelles que de la France qu'elle tient pour responsable d'avoir détruit l'État libyen et d'avoir provoqué les vagues migratoires qui vont vers les côtes italiennes. Et de ce point de vue-là, un règlement entre Paris et Rome, c'est aussi ce qui est attendu dans les semaines et les mois qui viennent.
Allez, le débrief du projet de loi de finances pour 2023 qui va être présenté en Conseil des ministres tout à l'heure. 5% de déficit, Wilfried Galland, est-ce qu'on en fait assez ?
On va dire que la...
Bah assez pour réduire la dépense. Hein.
Pour creuser le déficit.
Pas pour creuser le déficit.
Pour reprendre le mot d'un ancien Premier ministre, la route est droite, mais la pente est forte.
Ah, ça, c'était Raffarin.
Et là, on voit que la pente est effectivement très forte. Ce qui est très compliqué dans nos équilibres budgétaires, c'est qu'on voit qu'on a des éléments structurels de compétitivité qui sont inférieurs à ce qu'ils devraient être. Et en parallèle, on a effectivement des services publics sur lesquels les preuves, par exemple du Covid ou autre, montrent que on n'est pas au niveau. Et donc, les équilibres à faire sont extraordinairement compliqués. Je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui cette souplesse au niveau européen qui permet d'avoir un dialogue qui soit constructif. Toute la question,
elle nous permet surtout de pas faire le boulot, c'est-à-dire de pas réduire notamment le déficit structurel.
En fait, ça veut dire tout simplement que on nous donne le temps de faire des réformes. Et c'est pour ça, je pense, que la Première ministre a dit, bah, par exemple, la réforme des retraites, c'est une priorité, parce qu'il faut donner, effectivement, un certain nombre de dégâts en disant, on est prêt à faire des efforts structurels pour augmenter, mais plus généralement, la capacité productive de l'économie française. Ça, c'est ça qui est important.
Vous auriez fait mieux, Laurent Jacobelli, que les 5%. On le dit, c'est quand même un équilibre compliqué. Ce matin, on a appelé ce budget un budget bouclier, parce qu'il y a un certain nombre de mesures de protection face à l'énergie et le pouvoir d'achat. Vous auriez mis le curseur où ?
Oh bah, tout simplement, je crois qu'on aurait agi différemment. Vous savez, on nous avait promis les petits Mozart de la finance, hein, les génies de l'économie au pouvoir. On s'aperçoit que ce sont des gens qui arrivent à rendre nos services publics moins efficaces, plus distants, qui veulent attaquer cette fraternité sociale qui fait le modèle français, attaque du système des retraites, attaque du système d'indemnité chômage, attaque maintenant des jours de congé, enfin des jours maladie qui arrivent, et en même temps, puisque c'est le terme, moins de services, plus de dettes, et finalement les Français le sentent, une pression fiscale qui augmente. Tout cela est incompréhensible. Je pense qu'il faut s'attaquer aux vraies dépenses inutiles. On parlait à l'instant de la santé. Ben, 1 milliard par an pour soigner les migrants clandestins, il faut arrêter immédiatement, faire de vraies économies, mieux gérer l'État, arrêter les comités Théodule, arrêter les financements à coups de millions de McKinsey.
Et en mais ce n'est pas 5% de déficit là, que vous allez avoir. Si vous ne faites pas la réforme des retraites par la réforme de l'assurance chômage...
Ça, c'est la doxa officielle. Aujourd'hui, les caisses
de l'addition un peu. Hein,
aujourd'hui, les caisses de retraite sont bénéficiaires.
Non, la caisse complémentaire.
Et l'année prochaine.
Le régime général est déficitaire, on a encore 1,9 et ça sera beaucoup plus.
3 milliards d'excédents. Mais les prévisions du corps, qui est l'instrument de prévision des retraites.
Le régime général, il est déficitaire.
Nous prédit, au milieu des années 2030, une amélioration des choses. Pour réduire le déficit des caisses des retraites, il faut créer de l'emploi. Et le problème, c'est là. Vous l'avez dit, il faut restructurer notre économie, la rendre plus performante, donner aux industriels, aux PME, aux TPE, les moyens d'embaucher, les moyens d'investir. Et là, il faut un État stratège. Mais tant qu'on aura 5,5 millions de chômeurs, les caisses des retraites ne pourront pas être durablement à l'équilibre. Je rappelle qu'aujourd'hui, un Français sur deux arrive à la retraite en étant soit chômeur, soit en invalidité. Et donc, les économies potentielles que vous ferez sur les caisses des retraites, ce seront des dépenses supplémentaires dans les caisses chômage et dans les caisses sociales.
Mais avec un déficit,
donc tout cela n'a pas de sens.
Sauf que dans les pays où on a augmenté, allongé la durée de travail et repousser l'âge de la retraite, en général, on fait monter justement ce chiffre de seniors au travail au moment du départ à la retraite.
Mécaniquement, oui. Non, mais mécaniquement, effectivement. On sait qu'on a un effet mécanique. Plus généralement, toute la question, c'est comment est-ce qu'on augmente le potentiel productif. On sait très bien que compte tenu de l'appétence de la France à la dépense publique, les comités de la hache, ça ne fonctionne pas. Clairement, on peut se dire c'est nécessaire. Moi, je peux faire des calculs économiques disant c'est nécessaire. On sait que ça ne peut pas arriver. Voilà, ça ne peut pas arriver parce que les peuples derrière ne le veulent pas. Donc la seule façon, effectivement, de rentrer dans les clous, puisqu'on disait que c'est important, c'est d'augmenter la capacité productive de l'économie française. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire en sorte que, certes, les dépenses publiques soient plus efficaces, mais ça veut dire mettre plus de gens au travail. Et ça veut dire aussi augmenter globalement la productivité des personnes qui sont au travail. Si on n'y arrive pas, alors nos chiffres finaux, nos fameux ratios, seront toujours dégradés.
En fait, ce qui compte, c'est pas tellement le chiffre du déficit, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce déficit. C'est-à-dire que est-ce que le déficit d'aujourd'hui, ce sera le succès économique de demain? Or, aujourd'hui, le déficit, l'argent public, il va servir à quoi? Financer des éoliennes qui produisent pas assez d'énergie, financer une immigration dont nous n'avons pas besoin, financer un certain nombre d'investissements qui vont à contrario de l'intérêt général des Français. Il est là le vrai problème. Le problème, ce sont les priorités et ce que l'on fait de l'argent des Français.
Merci à tous les trois pour ce grand débrief.